RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Certains messages sont on ne peut plus clairs, comme « mort aux Américains ». On peut lire ce genre de choses sur des tracts ou des murs en Afghanistan, mais l'armée américaine tente de faire changer l'opinion. C'est une nouvelle stratégie de contre-insurrection, rassurer, convaincre, aller à la rencontre des chefs de village. C'est une véritable conquête des cœurs qui est engagée, mais les soldats américains ne sont pas forcément accueillis les bras ouverts, une bavure, et ils repartent de zéro. Reportage dans le Wardak, une province à l'ouest de Kaboul. Il est signé Luc Mathieu.
Base américaine d'Airborne, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Kaboul. Le sergent Kingsbury et ses hommes sont prêts à partir en mission. But de la patrouille, approvisionner en eau et rations de survie les bases avancées de la province du Wardak. Le sergent appelle ses hommes.
Ramenez-vous, vite, vite. Vous êtes prêts ? Très bien. Seigneur, une fois encore, nous sommes à ton humble service. Oui, Seigneur, nous te remercions pour cette journée. Protège-nous durant ce long voyage jusqu'aux avant-postes. Seigneur, nous te demandons de nous éviter d'entrer en contact avec l'ennemi. Mais si cela arrive, nous ferons ce que tu nous dis de faire. Nous te représentons, Seigneur. Amen. Amen. Allons-y.
Le convoi progresse lentement, les blindés chaotent le long de la piste qui s'enfonce dans la vallée de Jalrez. Les soldats sont inquiets. Début mars, l'armée afghane a découvert 3 roquettes dans une canalisation qui passe sous la piste. Pas de détonateur, mais une inscription sur l'un des explosifs. Mort aux Américains. Avant-poste Fort Apache, juste avant le village de Jalrez. 4 bâtiments de plein pied qui tombent en ruine. Les soldats scient, clouent, réparent et construisent. Arrivés fin février, ils doivent avant tout sécuriser la base. Ron Toomey est l'un des 87 militaires américains de Fort Apache.
Nous utilisons des barrières ESCO, ces cubes préformatés que nous remplissons de terre. Ils servent à protéger le périmètre de la base et les mitraillettes que nous avons installées sur les toits. Les toits, eux, sont renforcés avec des sacs de sable pour résister aux tirs de roquettes. Et nous finissons d'installer des rangées de barbelés tout autour de la base.
Les soldats américains ne sont pas les bienvenus dans la vallée de Jalrez. Plusieurs de ces villages sont des repères du Hezbi Islami, le mouvement islamiste de Gulbuddin Hekmatyar. Face à eux, les Américains ont adopté la stratégie de contre-insurrection prônée par le général Petraeus. Agir au niveau local, village par village, et tenter de convaincre la population qu'elle n'a plus de raison de soutenir les insurgés. Le capitaine Matthew Tom commande les soldats de Fort Apache.
Notre première priorité, c'est la sécurité, pas seulement la nôtre, mais aussi celle des gens qui vivent à proximité. Nous voulons qu'ils se sentent et qu'ils soient en sécurité face aux ennemis de l'Afghanistan. Nous sommes également en train d'établir un état des lieux des villages qui nous entourent. Nombre d'habitants, ce qu'ils ont, ce dont ils ont besoin, qui sont les dirigeants. C'est une première phase d'échange, de contact. Ensuite, notre mission sera de renforcer l'administration afghane et de favoriser le développement économique.
Chaque jour, les soldats de Fort Apache partent donc en patrouille dans les villages avoisinants. Des missions qui servent aussi à reconnaître les chemins escarpés de la vallée. Le capitaine Mark Hogan et ses hommes s'apprêtent à partir.
Notre mission d'aujourd'hui est un nouvel état des lieux d'un village. Nous allons juste à côté, un peu plus à l'est, dans la vallée. On en profitera pour faire une reconnaissance et déterminer l'état des routes et voir jusqu'où on peut rouler avec nos véhicules. A priori, les villageois seront plutôt sympathiques, mais n'oubliez pas, nous sortons de notre périmètre sécurisé, c'est donc une patrouille de combat. Des questions ? Très bien. Allons-y.
Les 4 blindés américains sont trop larges pour emprunter le sentier qui mène au village. Ils remontent péniblement le long d'un ruisseau. 10 minutes plus tard, le village apparaît enfin. Casque sur la tête, gilet pare-balles et fusil mitrailleur M4 sur la poitrine. Les soldats américains s'extraient de leurs blindés. Les femmes du village courent se cacher dans leurs maisons en pisé. Des enfants et quelques hommes s'approchent. Mark Hogan va à leur rencontre.
Nous sommes venus nous présenter. Nous sommes vos nouveaux voisins. Et nous voudrions rencontrer les aînés du village.
C'est gentil de vous être déplacé, d'être venu nous voir, mais si nous avons un problème, nous vous contacterons.
Une 15 hommes entourent désormais le capitaine. D'autres villageois sortent de leur maison et se dirigent vers les blindés américains. Les soldats forment un périmètre de protection. Le capitaine insiste pour rencontrer les chefs du village.
Je sais qu'il se fait tard, mais si vous aviez un petit moment, j'aimerais que l'on puisse s'asseoir et discuter de vos problèmes éventuels.
D'accord, si vous voulez, nous pouvons aller boire un thé à la mosquée.
Mark Hogan restera à l'extérieur. Assis en tailleur, il enlève ses lunettes de soleil et son casque. Face à lui, une 30 de villageois. À sa gauche, une officier des services de renseignement prend des photos. À sa droite, le traducteur afghan tente de suivre la conversation. Les villageois interpellent le capitaine Hogan.
C'est la saison des plantations. Je dois m'occuper de mes cultures, mais j'ai peur de venir près de votre base.
Vous n'avez pas à avoir peur. Si vous venez travailler dans vos champs, nous pouvons vous voir aussi bien de jour que de nuit. Il n'y a pas de problème.
Les talibans viennent parfois la nuit quand nous dormons. Mais nous ne pouvons pas venir à la base vous prévenir. S'il vous plaît, faites attention et ne tirez pas sur nos maisons.
Oui, je comprends. Nous ne vous tirerons pas dessus, car vous êtes nos amis.
La conversation change de thème. Après la sécurité, l'amélioration des conditions de vie. Comme la plupart des villages afghans, Daraïs Yarafpaïn n'a ni eau courante, ni électricité. Les villageois réclament donc un barrage. L'assemblée se lève et remonte le long d'un sentier. Soudain, Razol, le maire du village, s'arrête et tend le bras. Il désigne une rivière qui coule entre deux montagnes, à quelques centaines de mètres. Il prend à part le capitaine Hogan.
Nous avons fait venir des ingénieurs. C'est le meilleur endroit pour construire un barrage. L'approvisionnement en eau est vraiment notre principal problème. Si l'Amérique est d'accord pour bâtir ce barrage, alors je souhaite une longue vie à Barack Obama.
Cela semble être un bon endroit pour construire un barrage. Vous pourriez approvisionner en eau tout le village. Mais bien sûr, avant de pouvoir le construire, j'amènerai des ingénieurs pour qu'ils puissent examiner le terrain. Je vais prendre des photos tout de suite et je leur montrerai.
De retour à Fort Apache, le capitaine Mark Hogan se montre satisfait de la patrouille à Daraïs Yarafpaïn.
J'ai trouvé que c'était très constructif. Nous avons rencontré les villageois, ils nous ont vus, nous les avons vus. Nous ne sommes plus seulement ceux qui arrivent dans des blindés, nous sommes plus humains maintenant. Ils ont l'air préoccupés par la construction de ce barrage. Je vais vraiment essayer de leur obtenir, pas seulement parce qu'ils en ont besoin, mais aussi parce que cela nous aidera à créer une relation de confiance.
Les commandants américains le savent. Aider les villages ne suffira pas à stabiliser le pays. L'État afghan aussi est à reconstruire. Inefficace, souvent corrompu, l'administration ne remplit pas son rôle. Le lieutenant-colonel Michael Gabel commande la base d'Airborne.
Avec notre nouvelle stratégie, il faut aider les gens sur plusieurs plans. S'ils ne sont pas en sécurité, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement efficace. Mais si le gouvernement n'est pas bon, les gens se soulèveront et il n'y aura jamais de réelle sécurité. Donc, il faut agir sur ces deux plans. Et si ça fonctionne, alors l'économie se développera. Et si l'économie se développe, le gouvernement se renforcera et la sécurité s'améliorera. Tout est lié.
Hôpitaux, écoles, postes de police et de l'armée, les soldats de la base d'Airborne se rendent dans toutes les administrations. Aujourd'hui, ils vont dans le centre de Maidenshahr, la capitale provinciale du Wardak. Direction, la prison. Dans la petite cour du pénitencier, une dizaine de détenus jouent au volley. Une trentaine d'autres discutent, accroupis dans la poussière. Parmi eux, affirment les Américains, 16 talibans. La nuit, les détenus sont à sa 15, dans des dortoirs prévus pour seulement 6 personnes. Le général Saab, le directeur de la prison, se plaint de la faiblesse des moyens alloués par le gouvernement afghan.
Avant d'être une prison, c'était une maison ici. Nous devons payer un loyer et c'est à ça que sert le peu d'argent que nous recevons du gouvernement. À payer le loyer, la nourriture et les salaires. Et les salaires sont très faibles. Nous ne recevons pas assez de fonds pour sécuriser la prison. Ce sont les Américains qui nous ont donné les barrières de sécurité et les barbelés. Nous n'aurions pas pu les acheter nous-mêmes. Sans les Américains, les ennemis prendraient d'assaut la prison et les prisonniers s'échapperaient.
À l'extérieur de la prison, les soldats américains déchargent des rouleaux de barbelés. Les gardiens afghans les observent sans rien dire. Le capitaine Matthew Crowe détaille l'avancée des travaux.
Les barbelés actuels sont mal posés, ils sont trop espacés. Les murs sont faits de boue, de briques. La dernière fois que nous sommes venus, nous les avons renforcés en posant des barrières. En cas d'explosion, l'intérieur de la prison est désormais protégé. Aujourd'hui, nous avons ramené les barbelés. On va apprendre aux employés afghans de la prison à les installer.
Les gardiens afghans ont apporté des pâtisseries et des bouteilles de Fanta aux militaires américains. Certains soldats discutent en petits groupes. La plupart semblent s'ennuyer. Le soldat Randolph Reig, lui, s'énerve.
C'est une mission. Il faut la finir et je veux tuer quelqu'un. Vous savez, je veux tuer quelqu'un. Je viens de New York, je connais beaucoup de gens qui travaillaient à côté du World Trade Center. Ma mère travaille dans ce quartier, elle aurait pu mourir. C'est pas juste, c'est lâche ce qu'ils ont fait. Vous savez, maintenant que je suis ici, qu'ils essayent de me faire exploser.
À Airborne, les canons sont entrés en action. La base n'est pourtant pas attaquée. Les commandants américains font seulement une démonstration de leur puissance de feu à leurs homologues afghans. Le canon de 105 mm, capable de tirer des obus à plus de 18 km, impressionne le major Asadullah Rohistani.
C'est la première fois que je vois un tel canon. C'est une très bonne arme, sa portée est très longue et elle se manœuvre bien. Il faudrait vraiment que l'armée afghane en récupère. Ce canon est parfaitement adapté pour un pays aussi montagneux que le nôtre. On peut réaliser des tirs directs et indirects. On pourrait atteindre des cibles que l'on ne voit pas directement, qui se cachent derrière une montagne. Oui, vraiment, l'armée afghane doit être équipée de ces canons.
Équiper et former l'armée afghane, c'est aussi l'une des missions des forces étrangères en Afghanistan. En 2011, elle devra compter 134 000 hommes contre 84 000 aujourd'hui. À Airborne, une vingtaine de militaires français forment leurs homologues afghans. Le lieutenant-colonel Gabel détaille les objectifs du partenariat avec l'armée afghane.
Mon but est d'améliorer la capacité des compagnies d'artillerie à mener des tirs directs. Pour l'infanterie, l'objectif est d'établir un partenariat total avec l'armée afghane d'ici l'an prochain pour qu'elle puisse planifier et mener les opérations. Est-ce que la compagnie Alpha peut se voir attribuer une mission, la planifier et l'exécuter elle-même ? Les unités afghanes n'en sont pas loin, elles ont un bon niveau.
Une armée afghane capable d'opérer seule, une population qui soutient les soldats américains et rejette les insurgés. Les objectifs américains sont-ils réalisables ? Ils se heurtent en tout cas à la réalité des combats. L'an dernier, les opérations de la coalition ont fait plus de 1000 victimes civiles. Comment gagner la confiance de la population quand les bavures se multiplient ? Tamil Aming est officier de renseignement sur la base d'Airborne.
Nous appelons ça le contrôle des dégâts. Parfois, nous n'avons pas le choix et nous lançons une opération de combat car le gars que nous recherchons est une cible de haute valeur. Il arrive que les forces spéciales sachent précisément où il se trouve. Elles n'ont qu'à rentrer dans la maison, l'attraper et sortir. C'est le meilleur scénario, celui que nous préférons. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a des femmes et des enfants et que des gens se font tirer dessus, alors nous lançons un plan de réparation. C'est un plan qui suit l'opération et qui dure plusieurs jours. Il sert à montrer aux habitants du village que nous les apprécions. Nous pouvons aussi bien leur donner de l'argent que lancer des projets de reconstruction sur le long terme.
Mais sur le terrain, les bavures américaines restent le principal motif de mécontentement de la population. Du coup, face aux reproches, les officiers américains ont très bien rodé leur discours. Le capitaine Brendan McCarthy répond à un villageois de Kalaesongi, un hameau situé à quelques kilomètres de la base d'Airborne.
Il y a beaucoup de problèmes avec les fouilles de maison. Vous devez arrêter de tuer des personnes innocentes.
Je n'ai jamais été témoin, même une seule fois, d'une telle bavure, ok ? À moins que vous ne l'ayez vu vous-même, c'est de la propagande.
De retour à la base d'Airborne, le capitaine américain est toutefois moins catégorique. Il reconnaît les limites de l'action américaine.
On marche sur une corde raide ici. C'est comme ça que ça se passe. On peut faire du très bon travail pendant un an. On aide vraiment les Afghans, tout est parfait. Et puis en un seul jour, tout va être ruiné. Une seule erreur dont on parle à la BBC, sur CBS ou sur Fox News, et notre travail est oublié. La publicité négative ruine totalement notre crédibilité au niveau international, mais plus important aussi pour nous ici. Les villageois ne nous respectent plus et ne nous aident plus.
Depuis leur arrivée en janvier, les soldats américains n'ont pas subi d'attaque majeure dans le Wardak. Mais ils font des découvertes inquiétantes. Début mars, une patrouille a trouvé une bombe artisanale d'un nouveau type, une Daisy Chain, comme l'appellent les soldats américains. Plusieurs mines reliées qui explosent à quelques secondes d'intervalle. Le soldat Justin Coletti était présent.
Nous allions dans la vallée de Tanguy. Nous étions en train de quadriller la partie nord-est du premier village où nous nous étions arrêtés quand nous avons trouvé trois mines artisanales. Les deux premières étaient enfouies sous la route. La première mine était reliée à la deuxième. La troisième mine était en cours de fabrication, dans une maison toute proche. Nous sommes tombés sur deux femmes qui avaient chacune 50 000 dollars sur elles, en liquide. Nous avons appelé l'équipe de déminage et les deux femmes ont été transférées à la police afghane.
Personne n'en doute sur la base d'Airborne. Les attaques vont se multiplier dans les prochaines semaines. Tamil Aning vient d'ailleurs de recevoir des rapports de renseignement inquiétants.
Nous constatons que les combattants affluent dans la région. Les conditions climatiques s'améliorent, il y a beaucoup de mouvements à Kost et Paktika le long de la frontière et les combattants arrivent dans le Logar, à Ghazni dernier dans le Wardak. Nous sommes très proches de Kaboul, cela attire les combattants. Les statistiques le prouvent, le nombre de mines artisanales, d'embuscades, d'attaques armées augmente à partir de la fin mars et au cours du mois d'avril. Il y aura de l'action cet été, aucun doute là-dessus.
Face aux insurgés, les forces américaines répliqueront par des actions armées, y compris des opérations des forces spéciales. Une augmentation des combats qui éloignera encore un peu plus leur espoir de gagner les cœurs de la population afghane.
Un grand reportage de Luc Mathieu, réalisation Marc Minatel.
Grand reportage à réécouter à volonté sur notre site internet www.rfi.fr. Et demain, à la même heure, ce sera grand reportage économie. Jeunes et chômeurs, les deux termes vont de pair en France avec la crise. Le travail attendra le nombre des années. On verra cela avec David Bachet. Mais la musique n'attend pas sur RFI tout de suite. On retrouve une nouvelle candidate au concours découverte RFI 2009, le grand concours des musiques africaines et de l'océan Indien. Parmi les prétendants au titre, l'artiste malienne Déné Issé-Béré, on l'appelle aussi la voix du pays Dogon. Déné Issé-Béré et son morceau La Dilican. Voix du pays Dogon, Déné Issé-Béré et son morceau La Dilican. Le lauréat ou la lauréate du concours découverte RFI 2009 sera désigné fin novembre.